Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être venus pour cette rencontre autour de Jacques Ellul, que nous sommes très très heureux d'organiser à la librairie Mola. Nous avons organisé cette rencontre en prenant prétexte, et quel prétexte, du grand colloque que vous organisez sur les trois journées du 7, du 8 et du 9. Donc, nous avons fait venir pour ça donc, Monsieur Chastenet, qui organise ce colloque, qui est politiste et professeur à l'université de Montesquieu, et aussi à l'occasion de deux autres parutions, parution donc de Frédéric Rognon, qui est professeur à l'université de Strasbourg et qui a publié donc l'ouvrage Génération Ellul, vous avez sur la table 60 héritiers autour de la pensée de Jacques Ellul, et enfin publication dirigée par Michel Rode, qui sont les deux volumes de la revue Foi et Vie, dont le premier est paru en février je crois et dont le second vient juste de paraître la semaine dernière, autour de la pensée de Jacques Ellul, avec sur le deuxième volume un certain nombre de textes inédits. Nous avons décidé le souhait, c'était qu'avec ces trois intervenants, nous ayons, si ce n'est une vue complète, ce qui semble bien difficile, de la pensée de Jacques Ellul, mais que nous essayions de balayer au moins trois axes qui nous semblaient importants. Le premier, qui est peut-être au moins en nom le plus connu, qui est la partie de son œuvre concernant la technique, qui sera l'objet de l'intervention de M. Chastenet. Un deuxième moment qui sera celui de Frédéric Rognon autour de la spiritualité, enfin, du rapport entre Ellul et la spiritualité. On a essayé de choisir un thème un peu plus vaste que la simple question de la religion ou de la théologie. Et enfin, un point qui nous semblait aussi extrêmement important, qui sera abordé donc par Michel Rode, qui est la partie concernant les engagements de Jacques Ellul, dans la mesure où, pour ceux qui connaissent un peu la vie et l'œuvre d'Ellul, ce qui est assez passionnant, c'est qu'au-delà d'une œuvre livresque considérable, certains disent même qu'il a peut-être trop écrit, cette œuvre s'est toujours accompagnée d'un certain nombre d'actions. Il y a eu la résistance, mais il y a eu bien d'autres choses, d'un certain nombre d'engagements. Donc nous allons commencer par le versant technique de l'œuvre la partie d'Ellul consacrée à la technique. Alors généralement c'est maintenant souvent le biais par lequel dans le grand public l'œuvre d'Ellul est, on va dire, la plus connue, puisque on insiste beaucoup par rapport à ça sur son côté précurseur, sur le fait que son premier livre sur la technique paraît en 1954 et qu'il y soulève déjà des enjeux dans lesquels nous sommes pour le moins pris, si ce n'est englués. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur ce qu'est effectivement la pensée de Jacques Ellul concernant la technique?
Alors, je vous remercie de cette introduction. Je vais commencer par une petite confession. J'avais résumé sur une petite feuille de papier le plan de ce que je devais vous dire. Et donc, j'avais le choix tout à l'heure. Soit j'arrivais en retard à cette conférence, ce que je voulais éviter pour vous, pour le public, soit je prenais le risque de parler sans notes, sans plan. Donc j'ai opté pour cette solution, étant évident que donc je ne vais sans doute pas retrouver tout ce que je voulais vous dire, mais de toute façon en un quart d'heure. Donc la question qui m'était posée relevait un peu de la mission impossible, c'est-à-dire résumer l'approche ellulienne de la technique qu'on appelle en France d'ailleurs la technologie. Et le terme de technologie, Ellul n'en veut pas, parce que pour lui, ce qu'il entend par technologie, il réserve ce terme au discours sur la technique, à l'idéologie de la technique. Et la technique, pour lui, eh bien, justement, ce n'est pas la machine, c'est pas réductible à la machine, c'est pas réductible à l'outil, c'est finalement un état d'esprit qu'on retrouve dans la société moderne, c'est-à-dire la recherche en toutes choses, dans tous les domaines, du moyen absolument le plus efficace. Et c'est l'idée que la technique ne se laisse pas à raisonner, par la morale, par la philosophie, par des considérations spirituelles, quelles soient. Cette technique, elle est devenue finalement autonome. C'est-à-dire que elle se suffit à elle-même, finalement se pose comme valeur suprême, comme instrument de légitimation en soi. Elle est elle-même, si vous voulez, un élément de légitimation. Donc ce n'est pas sans conséquence sur notamment la sphère politique. Les conséquences qu'on va avoir, et quand je dis la sphère politique, ce n'est pas simplement la sphère politique. J'essaierai de donner quelques exemples où on retrouve justement l'application de la technique. Si vous me permettez d'ailleurs un petit retour en arrière, c'est vrai que ce n'est pas à Bordeaux qu'on présentait l'UIL, mais je crois que la vocation quand même de ces conférences, qui sont des conférences justement pour le grand public. Alors le grand public, c'est pas les champs, c'est pas le public de la roue de la fortune ou de l'émission des Champs-Élysées. Je suppose que c'est plus proche du public de France Culture, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être quand même dire quelques mots sur Jacques Ellul, hein, parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, rappeler que finalement ce colloque il a lieu à l'occasion du centenaire de sa naissance. Hein, il est né en 1912, il est né à Bordeaux, mais c'est pas c'est pas le Bordelais, c'est pas un Bordelais de c'est un Bordelais d'importation, si on peut dire. Hein, son arbre généalogique était extrêmement complexe. Et là, ses origines cosmopolites, entre guillemets, là, il n'y a pas du tout de connotation péjorative. L'ont prémuni, d'ailleurs, contre toute forme de xénophobie qui était très, très en vogue, notamment dans ses années de faculté de droit, dans les années 30. Et vous dire aussi qu'il est mort à Pessac. Alors non pas que son itinéraire, ça serait très réducteur de dire que c'est Bordeaux-Pessac 1912-1994. C'est quelqu'un qui, justement, alors ça devenait un petit peu lassant de rappeler, j'ai eu ma part de responsabilité, de rappeler « Nul n'est prophète en son pays », donc de rappeler cette parole biblique. Mais c'est vrai qu'il a eu une reconnaissance internationale, notamment aux États-Unis. Il y a dans la salle le président de l'International Jacques Ellul Society, David Gill, qui est ici. Il y a Jorge Barrientos, qui est son alter ego au Brésil. Pour être provincial, ou du moins pour avoir été conçu en province, cette pensée, elle a une portée, elle a une dimension internationale, elle a une dimension tout à fait universelle. Alors justement, puisque je parle d'universalité, ce qu'a fait Ellul à propos de la technique, c'est qu'il l'a définie de la façon dont je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire pas comme un simple, finalement, pas réductible à la machine, ce qui n'avait rien d'original, mais il nous a rappelé que ce qui finalement différencie la société moderne des sociétés précédentes, c'est que dans les sociétés précédentes, eh bien, la technique, c'est un outil entre l'homme et puis son milieu, entre l'homme et le milieu naturel. Et là, finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans la société moderne, ce qui fait qu'il l'a caractérisé comme étant une société technicienne, c'est-à-dire cette technique, elle est devenue finalement une seconde nature. Elle est devenue le milieu naturel de l'homme. Donc c'est plus un simple outil. Et puis cela signifie aussi que pour lui, finalement, l'homme croit se servir de la technique, qu'il a maîtrise sa technique, alors qu'en réalité, il en est l'esclave. De façon tout à fait anecdotique, et je veux dire qu'on l'est tous, on vit avec ses contradictions, moi le premier, puisque finalement, vous voyez, je viens d'être puni, même si c'était pour une bonne cause, c'est en attrapant mon téléphone dit intelligent, les smartphones, là, que je devais vérifier si un conférencier venu du Brésil avait bien annulé ou au contraire confirmé sa venue, que j'ai dû faire tomber, je ne sais pas, ou dans la rue ou dans les toilettes, cette brève présentation, en tout cas ces quelques notes. Hein. Donc cette technique, eh bien, finalement, elle fascine l'homme moderne. Et on est devenu avec cette technique, finalement, on devient, nous dit Ellul, l'homme devient l'outil de ses outils, l'instrument de ses instruments. De façon tout à fait anecdotique, on le voit dans les cours, où on a calculé que les étudiants, à peu près entre 20 et 25%, hein, et encore c'est des estimations gentilles, vous savez que les étudiants maintenant prennent leurs cours, prennent leurs notes de cours avec des ordinateurs, bon, vous en avez un sur quatre, dans le meilleur des cas, qui, en réalité, sont connectés sur les réseaux sociaux, sur Facebook, pour ne pas faire de publicité, hein, ou surfent sur Internet, sur des choses tout à fait éloignées des préoccupations de leurs chers professeurs. Quant aux professeurs eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font pendant les réunions ? La plupart du temps, pour échapper à l'ennui de ce genre de réunions de plus en plus nombreuses, ils vont sur, j'avoue l'avoir fait moi-même, et je le referai, m'emparer de mon téléphone pour consulter lemonde.fr ou consulter mes mails. Donc, on vit en permanence avec ces gadgets techniques. Ce n'est pas sans conséquence. Ce n'est pas sans conséquence parce que pour certains, on dit que justement, ça, il y a l'illusion du choix d'un côté, et il y a ensuite de plus en plus de métiers où le portable, le téléphone portable, n'est pas une option. C'est finalement, comme je l'ai dit ce matin, c'est une laisse. La seule différence, c'est qu'on a, si vous voulez vous rappeler comment on promenait les chiens il y a encore quelques années, et puis maintenant, on a inventé un gadget avec des espèces de laisses télescopiques qui vont jusqu'à 10 ou 15 mètres, j'en sais rien, j'ai pas calculé. Bon, on tient le salarié comme ça, en laisse, avec le téléphone portable. Bon, de façon encore tout à fait anecdotique, on a calculé, les Français notamment, mais ce sont des petits consommateurs, notamment par rapport aux États-Unis, passaient en moyenne 4h30 devant la télévision. Et je ne parle pas des enfants, puisque pour les enfants, vous le savez, dans la plupart des cas, enfin dans de nombreux foyers, c'est la télé qui fait office de babysitter. De façon tout à fait anecdotique, je passais chez voir des amis hier, madame regarde une émission culturelle traitant de la crise financière, j'essaierai d'en dire un mot tout à l'heure, monsieur est sur deux écrans, donc à la fois un jeu en ligne et de l'autre côté Roland-Garros. Et on est tous prisonniers de ce... On n'échappe pas à l'air que l'on respire. On est pris. Et donc Ellul ne refuse pas la technique. Ce qu'il refuse, c'est la sacralisation de la technique. Il refuse l'idée que, de toute façon, on arrivera toujours à régler les problèmes qui sont de plus en plus présentés, ramenés à des problèmes techniques, à commencer justement par les problèmes politiques et économiques. Et on dit on va trouver une solution technique. Mais oui, le problème, c'est que à chaque fois, ce qui est un élément important dans la technique chez Ellul, c'est justement son caractère ambivalent. Il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. La voiture est un merveilleux instrument de libération pour celui individuel, d'autonomie, pour celui qui est coincé à la campagne, qui veut l'accès à tout ce que permet la ville. Dans toute l'histoire, je ne ferai pas l'injure aux historiens dans cette salle, dans toute l'histoire, il y a cet adage au Moyen-Âge, l'air de la ville rend libre. Donc il y a toujours eu cette idée que la liberté, on la trouve dans la ville. Bon, évidemment, un effet de seuil fait que... L'autre côté, c'est les pollutions, c'est une société entièrement construite, organisée autour de la bagnole. Et on nous annonce avec le pic Uber, la fin de ce type de société. Bon, en tout cas, une profonde remise en cause, on le verra. Donc, chez lui, il n'y a pas cette idée d'être contre la technique, c'est de dire, bah oui, je suis contre la mort, contre la guerre, contre la maladie. Non, c'est absolument absurde. C'est simplement ne pas tomber dans cette illusion, hein, dans cette adoration. Et mes collègues le rappelleront tout à l'heure, une dimension fondamentale chez Ellul, c'est la dimension spirituelle. Il y a, on présente l'homme moderne comme quelqu'un de parfaitement rationnel, l'homme contemporain, qui finalement s'est débarrassé des vieilles religions traditionnelles inadaptées. Ce que nous dit Ellul, en fait, c'est qu'on a un nouveau sacré. Ce sacré, c'est la science et la technique, puisque les deux se nourrissent mutuellement. Les deux se nourrissent mutuellement. Je disais un mot tout à l'heure sur la question justement de la crise financière dont on nous rebat les oreilles depuis maintenant 4 ans ou 5 ans, ce qui fait que notre niveau général en économie a nettement progressé, je crois. Bah, il ne faut pas oublier que là aussi, qui est à l'origine de ce genre de petites créations, de ces petits hedge funds, junk bonds, subprimes, hein, dont je rappelle, bon, de façon tout à fait polémique, je le ferai pas justement, puisqu'on est en période électorale. Bon, je peux pas m'en empêcher. Bon, je le ferai pas. Qui a introduit justement ces prêts hypothécaires en France en 1988, il se trouve que c'était, et pourtant, c'est sous le gouvernement Rocard, hein, c'était Pierre Bérégovoy qui a introduit ça en France. Bon, c'était inutile de le dire, mais c'est quand même l'ironie de l'histoire. Quoi qu'il en soit, c'est bien au nom de la recherche de la plus grande efficacité. J'ai oublié l'essentiel, c'est la titrisation. Hein. Donc, les techniciens de la finance ont inventé des instruments extrêmement complexes qui étaient justement destinés à augmenter les profits, les bénéfices. Et c'est justement ces techniciens de la finance qui ont conduit à la situation dans laquelle nous sommes, qui ont conduit à la situation dans laquelle les Américains sont, je pense notamment à ces expulsions, hein, suite à cette crise des fameux subprimes, hein, donc cette situation de misère abominable. Donc, autrement dit, ce sont des techniciens de la finance. Hein, et comme l'a dit avec beaucoup d'humour, et je cite mes sources et mes bons auteurs ce matin, là encore, on s'en remet, je reviendrai tout à l'heure encore sur une illustration justement du pouvoir de l'expertise que pouvait dénoncer Ellul, c'est-à-dire du pouvoir des techniciens experts, des conseillers en tout genre. On le retrouve dans l'affaire du médiateur notamment, mais pas seulement. Les professionnels et les amateurs. Mon ami Bernard Bouissou, qui est dans la salle également aujourd'hui, avait terminé sa communication par cette remarque. N'oubliez jamais que l'Arche de Noé a été fabriquée par des amateurs et le Titanic par des professionnels. Là encore, hein, les techniciens, justement, qui tirent leur légitimité, qui tirent leur légitimité de leur savoir présumé. Bon, ils n'ont aucune légitimité. Autrement dit, il y a une perversion, justement, même du modèle démocratique. Le modèle démocratique, qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école? Qu'est-ce qu'on nous apprend à la fac? On nous apprend une chose, que le modèle démocratique, il est très simple. Le peuple, c'est-à-dire vous et moi, on élit des représentants. On exerce un contrôle sur ses représentants. On n'est pas content, eh bien, à la prochaine élection, on les sanctionne. Ces élus dirigent des hauts fonctionnaires, dirigent une fonction publique qui est là pour exécuter des politiques publiques. On a là maintenant, en réalité, une inversion de la pyramide, une inversion du modèle démocratique, puisque en réalité, on l'a vu dans l'affaire du sang contaminé, et on a eu tort de s'acharner et de se moquer sur la formule de cette pauvre Georgina Dufoy, responsable mais pas coupable. Cette formule a beaucoup de sens. C'est un aveu de ce qu'est devenue la politique dans une société technicienne. C'est la même chose qui s'est passée dans le cadre de l'affaire du Mediator. C'est-à-dire des responsables politiques qui, sur le papier, sont en effet responsables de la politique du médicament. Ils sont politiquement responsables, mais qui ne sont pas informés puisque leur propre directeur de cabinet, leur propre direction, leur propre service n'ont pas l'information. Et ils n'ont pas l'information parce que cette information, elle est la chose des techniciens experts qui travaillent auprès, justement, des différents services. On l'a vu dans l'affaire du sang contaminé, donc des différents services en relation avec le ministère de la Santé. Et c'est ce qui s'est reproduit alors qu'on nous avait annoncé que dès lors, on mettrait en place le principe de précaution et qu'on allait voir ce qu'on allait voir après l'affaire du sang contaminé. Elle nous servirait de leçon, eh bien, on n'aurait plus de nouveaux scandales sanitaires. Grâce à quoi ? Grâce aux techniciens, grâce aux experts. Ce que nous dit Ellul, justement, c'est qu'il faut se méfier de cette nouvelle aristocratie de techniciens qui fait qu'elle sépare de façon absolument définitive deux mondes, c'est-à-dire une petite élite composée d'experts qui peuvent être experts en nucléaire, expert en génie génétique. Là aussi, c'est un vaste domaine qui entre tout à fait dans les compétences d'Ellul, dans la grille de lecture ellulienne. La grille de lecture ellulienne, elle reprend ce qui a été formulé sous forme d'une loi, la loi de Gabor. Tout ce qui est techniquement faisable sera fait un jour. Et j'en termine là-dessus pour laisser la parole à mes collègues. Eh bien, tout ce qui est faisable sera fait. Tout ce qui est techniquement réalisable sera un jour réalisé. Ça signifie que, évidemment, que le clonage des humains, il est évidemment en cours. Il se fait, on sait que des expériences sont menées au Japon et pas seulement par une secte d'illuminés tendance raélienne, que bien évidemment, on le voit avec les transhumanistes. Donc cette dynamique, elle existe là. Et ce constat-là ne doit pas, pour Ellul, nous empêcher de nous dire « Bon, alors évidemment, vous nous dites ça, bon, mais il n'y a plus rien à faire, on est là condamnés. » Non. Ellul nous dit que, évidemment, il faut partout où nous nous trouvons, dans les institutions, à l'hôpital, dans l'entreprise, à l'université, partout où nous sommes, eh bien, on a à fonctionner comme un petit peu comme des grains de sable dans une machine qui est trop bien huilée. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup pour cette intervention qui, je pense, a un grand mérite, qui est de montrer que Ellul est vraiment un outil, un support de pensée et de pensée du contemporain. C'est-à-dire que je pense que l'un des intérêts de la pensée d'Ellul sur la technique, c'est qu'au-delà des exemples que lui peut prendre dans ce livre, qui forcément, eux, ont vieilli, qui, du fois, nous paraissent même un peu cocasses, il a mis au jour une dynamique et une logique. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait qu'on peut encore s'en servir comme support de pensée. Il y a un autre point dans ce que vous avez dit qui me semble aussi assez essentiel, c'est ce retournement par lequel, alors, parce que généralement, il y a tout un versant de la critique de la technique, et même plutôt de la critique de la technique, qui voudrait que cette critique soit irrationnelle. Or, ce que vous montrez très bien, c'est qu'il y a eu un retournement par lequel c'est la technique qui est devenue sacrée, qui ne fait plus l'objet de contestations rationnelles, et que le travail que fait Ellul et qu'il a toujours revendiqué, c'est d'avoir une logique de critique rationnelle de la technique, et pas du tout une critique, on va dire passéiste, c'est pas le mot, mais voilà, qui se placerait du point de vue d'un état antérieur et édénique, etc., ce qui n'est pas du tout sa logique. Ce qui nous fait tendre vers donc cette question du sacré monsieur Rognon, qui est comment est-ce que d'abord, je sais que c'était un débat assez fort chez les gens qui travaillaient Ellul, c'est est-ce qu'il y a une articulation chez Ellul de la question de la technique et de la question, on va dire, au sens large, spirituelle, ou est-ce que les choses sont scindées? Et est-ce qu'on peut dégager quelque chose comme une, Une pensée spirituelle, dit-il, ou est-ce qu'on est plus sur une logique de lecture des textes, dans une logique plus de tradition, on va dire, protestante, qui consiste à faire un travail de lecture sur le texte même, mais est-ce qu'il y a une sorte de corpus théologico-spirituel d'Ellul?
Merci d'abord pour votre invitation, merci à la librairie Mola, et merci à chacune et chacun d'entre vous d'être là ce soir, à une heure où il y aurait tellement d'autres choses à faire, certainement tellement de chaînes de télévision passionnantes, et tellement de concurrence culturelle sur la place de Bordeaux, j'en suis sûr. Donc merci vraiment d'avoir fait le choix d'être ici. Et en disant cela, ce n'est pas du tout une formule de politesse, puisque je suis déjà rentré de plein pied dans le vif du sujet, puisque partager autour de Jacques Ellul, c'est partager autour d'un homme qui nous invitait à faire des choix, à faire le choix de l'essentiel dans une société où nous sommes submergés de sollicitations, de messages, de toutes sortes de propositions, tellement submergés que nous avons du mal à voir quel est l'essentiel. Nous allons essayer, nous essayons ce soir ensemble de voir quel est l'essentiel de notre vie. Alors, vous m'avez proposé cette intitulée « La spiritualité de Jacques Ellul ». J'ai accepté ce titre, en même temps, je le reprendrai de manière un peu critique. Même si Jacques Ellul parle de spiritualité, il emploie le terme « spiritualité »,« spirituel », et en même temps, il se méfie de ce terme, parce que ce qui peut être compris à travers la spiritualité, aujourd'hui surtout, ce sont des techniques de spiritualité. C'est tout ce qu'on appelle les nouvelles spiritualités, les modes de développement personnel. Tout cela, eh bien, en fait, ce sont des techniques. Et c'est précisément, aux yeux d'Ellul, un exemple emblématique de l'emprise de la technique, au sens que Patrick Chastenet vient de rappeler, la technique comme mentalité, comme absolutisation de l'efficacité. Et c'est donc un exemple emblématique de l'emprise de la technique sur notre vie, pas seulement sur notre vie de travail, sur nos activités ou nos loisirs, mais sur notre vie personnelle et même sur notre vie intérieure. Et donc, les techniques spirituelles, tout cela, c'est aux yeux d'Ellul, quelque chose dont il se méfie, et Ellul préférait parler de sa foi plutôt que de la spiritualité. Donc je parlerai plutôt de la foi d'Ellul, de sa foi chrétienne, qu'il a reçue, il le raconte à l'âge de 17 ans, qu'il a reçue parce qu'il est né, il a grandi dans une famille qui n'était pas pratiquante, qui n'avait pas de pratique religieuse. Et brutalement, à l'âge de 17 ans, il a reçu cette foi de manière tout à fait inattendue, et il raconte cela de la manière suivante. Il dit que ça lui a fait très peur d'avoir ainsi l'évidence de la présence de Dieu à ses côtés. Ça lui a fait peur parce que Jacques Ellul était un homme très attaché à sa liberté, et devenir chrétien, cela lui semblait une aliénation à l'égard de ce à quoi il tenait. Il craignait de perdre sa liberté en devenant chrétien. Et donc, et cette anecdote va vous donner, pour ceux qui ne le connaissent pas, une petite approche du personnage. La stratégie qu'il a employée au moment de cette conversion qui lui est tombée dessus d'une certaine manière, ça a été de se plonger dans des lectures d'auteurs antichrétiens. Il a lu toute une série d'auteurs, notamment toute l'œuvre de Marx, hein, qu'il a lu à cette même période, et puis d'autres auteurs. Et pendant plusieurs mois, il a combattu pour finalement accepter cette conversion, parce qu'il a fini par comprendre qu'en devenant chrétien, eh bien, toutes les libertés auxquelles il était attaché, liberté politique, liberté morale, liberté de mœurs, toutes ces libertés n'étaient que des libertés superficielles, factices, et qu'en devenant chrétien, il allait accéder à la seule véritable liberté. J'essaierai de la définir tout à l'heure, cette véritable liberté. Je termine l'anecdote au sujet de sa conversion. Il est rentré tout penaud à la maison pour dire à sa mère qu'il était devenu chrétien. Et sa mère, qui était chrétienne, protestante, mais non pratiquante par respect pour son mari, qui lui était libre penseur, sa mère lui a dit « ça ne m'étonne pas du tout, parce que depuis ta naissance, je prie tous les jours pour ta conversion ». Donc vous voyez toute l'ambivalence de cette expérience qui finalement est peut-être l'exaucement d'une prière. Alors, ce qu'il faut dire surtout au sujet de la, du rapport de Jacques Ellul à la foi, à la confession chrétienne, à sa posture confessante, c'est que l'œuvre de Jacques Ellul est considérable, vous le savez, 58 livres, 1118 articles, donc des milliers de pages, et que cette œuvre peut être répartie en deux versants, à peu près équivalents. Un versant, celui que Patrick Chastenet vient de présenter, donc la critique de la société technicienne, l'analyse très rigoureuse, universitaire de la technique, du phénomène technicien et des conséquences de la technique dans tous les aspects de la vie dans notre société moderne. Et puis le deuxième versant, qui est donc un versant confessant, un versant dans lequel eh bien, il se présente comme chrétien et il essaye de comprendre comment vivre en chrétien dans cette société-là. C'est ça son propos, c'est essayer de comprendre comment, comment être chrétien dans une société close, dans une société qui, du fait de la prégnance de la technique, nous enferme, nous aliène, nous fait croire que nous sommes libres alors que nous le sommes de moins en moins. Et comment être chrétien alors que être chrétien, je vais le montrer dans un instant, c'est précisément être libre, ou c'est plus exactement être invité à la libération, être peu à peu libéré. Comment être libéré? Comment être libéré en Jésus-Christ dans une société qui nous aliène et qui se referme de plus en plus et qui est sans issue et qui est sans avenir? Voilà. Et il faut bien comprendre que ces deux versants, ces deux volets de son œuvre ne sont pas deux versants indépendants. Vous parliez d'articulation, il faudrait plutôt parler de dialectique, plus que d'articulation, de dialectique entre ce versant sociologique, critique de la société technicienne, et ce versant confessant, où il aborde les questions de la foi et de l'éthique chrétienne. Dialectique, cela signifie que chacun des deux versants renvoie à l'autre, se nourrit de l'autre, et que, on pourrait même dire, enfin Jacques Ellul disait, que chacun des livres d'un versant renvoyait à chacun des livres de l'autre versant. Et il avait cette formule également pour exprimer cette dialectique. Il disait que c'est parce qu'il était chrétien, c'est parce qu'il croyait en Jésus-Christ et parce qu'il croyait en un royaume qui est au-delà de ce monde, qu'il a pu faire son œuvre sociologique, son œuvre scientifique, son œuvre d'analyse rigoureuse, parce qu'il a pu regarder le monde tel qu'il est, ce monde sans issue, ce monde qui court à l'abîme, il n'a pu le regarder d'une certaine manière dans les yeux que parce qu'il était chrétien, sinon, s'il n'avait pas eu cette espérance et cette foi, eh bien, soit il aurait arrêté ses recherches au milieu, parce qu'il aurait été désespéré, soit même il se serait suicidé. Donc ce n'est que grâce à son espérance et à sa foi qu'il a pu faire son œuvre sociologique. Inversement, dit-il, ce n'est que parce que j'ai regardé le monde tel qu'il était, je l'ai analysé dans les détails, dans les faits, dans la matérialité, que ma théologie, que mon rapport à Dieu, que mon discours confessant est un discours pleinement incarné et pas du tout une théologie complètement désincarnée. Donc dialectique entre les deux versants. Alors quelle est la foi d'Ellul? C'est une gageure évidemment de le dire en 5 minutes alors qu'il y a plus de 25 livres consacrés à ce sujet. Mais je dirais qu'elle s'articule autour de la liberté. Plusieurs ouvrages portent ce titre, hein, l'éthique de la liberté, les combats de la liberté. Parce que être chrétien, c'est être libre. Mais pourquoi est-ce que être chrétien, c'est être libre, plutôt que, par exemple, être chrétien, c'est être sauvé? Pour lui, être chrétien, ce n'est pas être sauvé, c'est être libre. C'est ça qui distingue un chrétien d'un non-chrétien. Pourquoi? Parce que être chrétien, c'est croire en un Dieu, le Dieu biblique, le Dieu de Jésus-Christ, qui est transcendant, qui est donc extérieur au système technicien, qui est extérieur à notre société close. Et ce n'est qu'en s'appuyant sur un Dieu extérieur que l'on peut prendre du recul par rapport à cette société, à ce monde et à ce système. Et en même temps, c'est tout le paradoxe de ce Dieu biblique, c'est qu'il est à la fois le tout autre et le Père, puisque Jésus nous parle de Dieu comme du Père, de notre Père. Donc il est à la fois le tout autre et le tout proche. Ellul reprenait une formule du théologien Karl Barth, qui disait ceci: c'est en tant que tout autre que Dieu est notre Père, et en tant que notre Père que Dieu est le tout autre. Là aussi, une pensée dialectique, une théologie dialectique. Premier élément donc de cette liberté, Je ne peux être libre à l'égard du monde, à l'égard du système technicien, qu'en m'appuyant sur un Dieu qui lui est extérieur. Un Dieu qui fait brèche vis-à-vis de cette clôture permanente, de ce qui se referme en permanence. Deuxième élément pour comprendre pourquoi, pour Jacques Ellul, nous sommes libres en Jésus-Christ lorsque nous sommes chrétiens. Et je reviens sur cette idée que c'est la seule vraie liberté, toutes les autres libertés sont des libertés factices, parce que la liberté en Christ, ou plus exactement la libération, il s'agit d'un processus à partir d'une situation d'aliénation, un processus vers la liberté, nous ne sommes pas libres d'emblée, mais nous nous faisons libérer, nous sommes appelés à la liberté. Ce processus est en réalité, à la différence de toutes les autres libertés, liberté économique, liberté politique, liberté de mœurs, ce n'est pas seulement une liberté à l'égard d'un objet extérieur à nous-mêmes, mais c'est d'abord et avant tout une libération à l'égard de soi-même. Celui qui est libre en Jésus-Christ, c'est celui qui se laisse libérer à l'égard de lui, à l'égard de lui-même et à l'égard de ce qui, en lui, l'attache aux objets extérieurs, qu'il s'agisse de la technique, qu'il s'agisse de la politique, qu'il s'agisse de l'argent, qu'il s'agisse de toutes ces idoles, de tout ce sacré, nouveau sacré ou ce sacré technicien. Conséquence de cette compréhension de la liberté, liberté comme libération à l'égard de soi-même, eh bien, l'éthique de Jacques Ellul, l'éthique chrétienne de Jacques Ellul, est une éthique de la profanation. Pourquoi une éthique de la profanation? Parce que si je suis libre, réellement libre, eh bien, tout le reste, toutes les œuvres humaines, qu'il s'agisse de la politique, de l'argent, de l'économie ou surtout de la technique, tout ce que nous avons sacralisé, tout ce que nous avons absolutisé, devient relatif. Et je suis donc invité à profaner ce qui est sacré. Ce qui n'est pas sans conséquence, d'ailleurs, vis-à-vis du regard que les autres vont porter sur moi. Si je commence à contester ou si je commence à profaner le sacré technicien, si je commence à regarder autrement nos gadgets, nos objets techniques, eh bien, alors, je serai peut-être considéré comme un hérétique, je serai peut-être ostracisé, mais c'est à cela que les chrétiens sont invités. Non pas, comme le disait Patrick Chastenet, non pas se passer de la technique, non pas retourner à l'âge des cavernes ou même à l'âge de la bougie, mais vivre dans ce monde, pleinement dans ce monde, sans pour autant l'idolâtrer, sans pour autant le sacraliser, au contraire en le désacralisant, en le profanant. Concrètement, ça signifie utiliser des objets techniques, peut-être pas tous, on n'a peut-être pas besoin d'utiliser tous les objets techniques, mais ceux dont on a besoin, les utiliser comme des objets, et non pas comme des idoles, et non pas nous laisser utiliser par eux. Je prends juste un simple exemple très concret que Jacques Ellul donne par rapport à l'informatique. Jacques Ellul n'a pas connu Internet, mais il a connu les débuts de la révolution micro-informatique. Et il disait, voilà, avec un objet technique comme l'ordinateur ou un autre objet, la voiture par exemple, hein, ou la télévision, vous pouvez peut-être avoir besoin pour votre travail d'utiliser cet objet. Si c'est la voiture, ça sera peut-être une heure par jour. Si c'est l'ordinateur, ça sera peut-être 7 heures par jour. Dans ce cas-là, vous l'utilisez comme un moyen au service d'une fin extérieure à cet objet. Mais si une fois rentré chez vous, vous vous remettez sur l'ordinateur ou vous reprenez la voiture pour faire un tour en voiture ou si vous continuez à utiliser l'objet au-delà des besoins, alors ce n'est plus un moyen, c'est une fin en soi. Et donc, le critère du temps que l'on consacre à l'objet technique, peut être un bon critère, un bon paramètre pour voir si nous sommes aliénés ou libérés. Mais Jacques Ellul ne nous donne jamais de loi en disant « voilà, il faut tant d'heures pour être libéré, tant d'heures pour être aliéné ». Au contraire, il nous dit à chacun d'estimer le nombre, le temps dont il a besoin pour rester le maître. Mais après, c'est à chacun de se déterminer, de se dire « mais est-ce que j'ai vraiment besoin de consacrer tant de temps à cet objet ?» Et quand j'emploie le terme « consacré », c'est la même famille que « sacré », je crois que là, nous sommes au cœur du sujet. Qu'est-ce qu'être idolâtre? Qu'est-ce que sacraliser la technique? Qu'est-ce que sacraliser le monde? C'est consacrer sa vie à cela, ou en d'autres termes, c'est sacrifier autre chose. Vous voyez, sacrifier, c'est également de la même famille que sacré. Qu'est-ce qu'être idolâtre? Qu'est-ce qu'être dans le sacré technicien? Eh bien, c'est sacrifier ma famille, mes relations, ma vie spirituelle, ma vie avec Dieu, ma vie intérieure, c'est donc sacrifier un certain nombre de choses pour l'objet. Si je consacre tout mon temps à l'objet, à l'écran par exemple, eh bien je sacrifie autre chose, parce que les journées n'ont que 24 heures, et donc si je passe 18 heures devant un écran, eh bien je ne passe plus beaucoup de temps avec les autres, dans la relation personnelle ou avec ma vie avec Dieu. Voilà donc quelques exemples pour montrer à quel point la foi chrétienne pour Ellul, c'est un message de libération qui a des conséquences extrêmement concrètes dans la vie quotidienne. Est-ce que j'ai encore quelques minutes ?
Oui.
Bon, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais je vais quand même donner deux, trois autres éléments pour vous donner une idée de ce que Jacques Ellul, de la manière dont Jacques Ellul aborde la question de la foi. Jacques Ellul se situe donc dans une tradition chrétienne dans laquelle il est entré à 17 ans, une tradition protestante qui valorise le rapport au texte biblique. Et donc, pour répondre à votre question de tout à l'heure, quel est le rapport de Jacques Ellul à la Bible ? Dans une tradition protestante, le rapport traditionnel serait, chaque fois que l'on a un problème social, moral, éthique, de se tourner vers le texte biblique pour y chercher une réponse. La Bible devrait avoir réponse à nos questions. Eh bien, Jacques Ellul se situe non seulement en décalage par rapport à tous les courants, toutes les modes intellectuelles et culturelles de son temps et de notre société, mais il se situe aussi en décalage par rapport à sa propre tradition protestante, puisqu'il inverse la posture. Il dit la Bible n'est pas un livre de réponse à nos questions, mais un livre de questions. C'est-à-dire que son rapport au texte biblique, il ne s'agit pas d'aller chercher des réponses dans la Bible aux questions que nous nous posons. Il s'agit pour Jacques Ellul d'entrer dans la Bible et de recevoir à travers le texte biblique les questions que Dieu me pose, moi en tant que lecteur. Il posera d'autres questions à un autre lecteur croyant. Mais quelles sont les questions que Dieu me pose à moi à travers le texte biblique? Des questions auxquelles il faudra que je réponde en responsabilité et en liberté, et par le discernement. Prenons juste quelques exemples que cite Jacques Ellul. Dans la Bible, il y a un certain nombre de questions qui sont posées à des personnages bibliques. Par exemple, Dieu demande à Caïn, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Mais ce n'est pas seulement à Caïn qu'il pose la question, c'est au lecteur, aujourd'hui, qui est en train de lire ce texte de la Genèse. Toi, qui lis ce texte, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Deuxième exemple, Jésus demande à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Qui dites-vous que je suis ? Ce ne sont pas seulement les disciples qui sont interpellés, mais les lecteurs d'aujourd'hui auxquels Dieu adresse cette même question. Et enfin, dernier exemple, Jésus au tombeau vide, le matin de Pâques, dit à Marie de Magdala, « Qui cherches-tu ? » Là aussi, ce n'est pas seulement Marie de Magdala qui est interpellée, mais chacune des lectrices, chacun des lecteurs au moment où il lit ce texte. « Qu'as-tu fait de ton frère ? » Question éthique qui demande une réponse éthique. « Qui dites-vous que je suis ?» Question confessante qui demande une réponse confessante. « Qui cherches-tu ?» Question existentielle qui demande une réponse existentielle. Ensuite, au lecteur croyant, de répondre, et pas seulement de répondre avec des mots, mais d'en répondre avec sa vie, avec sa manière de vivre. Enfin, dernier point, peut-être au sujet de la foi d'Ellul. Vous voyez que c'est une foi un petit peu particulière, originale, peut-être même quelque peu hétérodoxe, la différence que Jacques Ellul fait entre l'espoir et l'espérance, je terminerai avec cela, dans un ouvrage magnifique qui était d'ailleurs celui que lui-même préférait parmi les 58 qu'il avait écrit, qui s'intitule « L'espérance oubliée ». Jacques Ellul nous dit, quand on emploie le verbe « espérer » en français, eh bien, cela peut renvoyer à l'espoir ou à l'espérance. Mais pour lui, les deux choses sont tout à fait différentes. L'espoir et l'espérance n'ont pas grand-chose à voir. Parce que l'espoir, finalement, quand on a de l'espoir dans la vie, c'est qu'on voit une fenêtre ouverte, on voit une issue possible, on voit quelque chose qui se dégage. Et comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein, l'espoir fait vivre. Et l'espoir, donc, à vue humaine, nous permet de voir une issue. Or, nous sommes de plus en plus dans une société sans espoir, une société désespérée, une société qui va vers l'abîme et qui court vers l'abîme avec une débauche de moyens financiers, de moyens humains, avec une force, un enthousiasme même. C'est une sorte de désespoir enthousiaste ou d'enthousiasme désespéré. Eh bien, Jacqueline nous dit que c'est précisément lorsqu'il n'y a plus d'espoir, lorsque toutes les issues sont closes, lorsqu'on est lucide, c'est-à-dire lorsqu'on ouvre les yeux sur ce qui nous arrive, ce qui nous attend et ce qu'on a tout fait pour que ça nous arrive, c'est à ce moment-là que surgit l'espérance. L'espérance, finalement, requiert l'absence d'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, il n'y a pas d'espérance. Ce n'est que lorsqu'il n'y a plus d'espoir que l'espérance surgit. Mais attention, cette espérance, donc cette espérance qui va au-delà de ce monde, cette espérance de Jacques Ellul n'est pas du tout une espérance qui consiste à se désincarner, à dire ben, « attendons la fin du monde, réfugions-nous quelque part où on sera tranquille » ou au contraire « consommons au maximum car de toute façon tout est fichu ». Il ne s'agit pas du tout de cela. Cette espérance, c'est une espérance sur un autre monde, en un autre monde, mais une espérance qui consiste à qui nous invite à nous engager, à nous investir dans ce monde, à participer au combat de ce monde, mais sans illusion. Il ne s'agit pas de se désengager, il s'agit de s'engager tout en étant dégagé en Jésus-Christ. Il fait la différence entre engagement, dégagement et désengagement. Il s'agit de s'engager en étant dégagé, mais certainement pas de se désengager. Et donc cette espérance, c'est une espérance totalement incarnée. Il s'agit, et Jacques Ellul l'a montré, et on va le voir maintenant avec Michel Rode, a montré à quel point lui-même était engagé. Tous ces engagements témoignent du fait qu'il n'était pas du tout désincarné. Au contraire, il nous invite à nous engager, à être présents au monde, mais en témoignant d'une autre espérance.
Merci beaucoup.
Non, vous évoquiez, juste une aparté, mais vous évoquiez l'enthousiasme désespéré dans lequel notre société court à l'abîme. Simplement, ça me faisait penser au fait qu'il y a un texte assez passionnant qui vient de paraître sur l'histoire du risque technologique et qui s'appelle « L'apocalypse joyeuse ». Et qui, voilà, je pense, recouvre à peu près les mêmes idées. Donc vous avez eu l'amabilité de préparer la transition, donc je n'ai pas énormément de choses à rajouter. Ce qui me semble important, en préambule simplement, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre d'engagements des Lulles qui sont connus. En même temps, il semble, de ce qu'on peut en savoir, que lui faisait vraiment passer l'engagement qu'il pouvait avoir sur la publicité qu'il pouvait donner à ses engagements, ce qui est, je pense, le différencie d'un certain nombre d'intellectuels, et que c'était le fait d'agir et de s'engager qui caractérisait aussi son mode d'agir. Et que par ailleurs, il a, et entre autres, je crois, sur la partie de la guerre, fait preuve d'une très grande de pudeur, voire d'un quasi-silence, sur l'action précise qu'il a pu mener, jugeant que ce qui était important, c'était de faire ce qu'il avait à faire, et non pas d'en tirer un mérite quelconque. Donc voilà, je vous laisse présenter ces engagements.
Merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, Jacques Ellul est à la fois le philosophe de l'objet, le philosophe de la société, le penseur. Le mot philosophe, il n'aurait pas aimé, il n'aimait pas du tout la philosophie, ni les doctrines théologiques. C'est à la fois un penseur de la globalité de la société et en même temps, c'est vraiment le penseur de l'intériorité, l'homme de l'intériorité, comme vient de le montrer Frédéric Rognon. Donc, très vite, très tôt, il va s'engager de multiples manières. Alors, en 20 minutes, je dois essayer de faire défiler de multiples engagements qui sont d'ordre personnel, d'ordre politique, d'ordre ecclésiaux. Vous me pardonnerez de ne pas pouvoir entrer dans toutes les doctrines, mais pour ça, il y a le colloque. Moi, je crois que fondamentalement, Jacques Ellul, que j'ai quand même un petit peu connu, est un homme passionné, est un homme qui a envie d'agir et qui a surtout, qui est surtout en empathie à l'égard du prochain et de la société, des personnes qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas, et il se porte en avant. Vers les autres. Et puis, il y a le contexte, la crise de 1929, son père qui perd son emploi. Jacques Ellul, très vite, est obligé de donner des leçons pour aider au foyer familial. Il se plonge dans Marx. Il trouve là la description d'une réalité qui semble correspondre à ce qu'il vit dans les années 29-30. Et donc, il se plonge dans Marx, puis il en sera assez vite insatisfait, et ça sera plutôt Proudhon, ça sera plutôt les penseurs libertaires. Voilà. Donc, les premiers engagements, ça va être quoi ? Ça va être la crise parlementaire du 6 février 1934, avec cette émeute à Paris qui tourne au coup de force fasciste, la préparation de la contre-manifestation de gauche du 12 février. Il y participe très ardemment. C'est les débuts, c'est les prémices du Front populaire, vous le savez. Donc, il est là très engagé. Il est en même temps déçu lorsqu'il va parler avec des gens, des membres du Parti communiste qui se désintéressent complètement de la doctrine marxiste que lui a essayé d'assimiler. 1935, c'est déjà le mouvement personnaliste avec le manifeste personnaliste préparé par les personnalistes de Gascon avec Bernard Charbonneau et autres. Il s'agit de lancer un mouvement qui ne soit pas un parti politique, qui critique le fascisme d'un côté, qui critique le communisme de l'autre, et qui, au cœur, mette la préoccupation de sauver, évidemment, la personne humaine, avec l'idée d'une société basée sur des contre-pouvoirs, des petits groupes, des gens qui se connaissent, quelque chose de tout à fait fédéral. Puis, il y a la guerre d'Espagne. Il essaie, par un ami de lycée, de faire passer des armes aux républicains espagnols. C'est assez étonnant pour quelqu'un qui, évidemment, se posera toujours le problème de s'armer ou non. On le reverra dans la résistance. En 36-37, on le voit critiquer Bernard Charbonneau qui participe à des grèves. Bon, je passe. Il participe à des mouvements de jeunesse protestants, mais de manière très critique, puisqu'il critique les éclaireurs unionistes trop militaristes, selon lui. Je résume. Puis c'est vraiment la grande rupture avec Marx, parce qu'il reproche à Marx d'avoir fait l'apologie, finalement, du travail, d'avoir posé un nouvel ordre naturel avec son idée de conditions humaines, et surtout d'avoir placé un véritable messianisme et une idéologie qui est pour lui inadmissible. Il se répand de multiples articles dès cette époque-là dans de nombreux journaux protestants. Il va d'un petit groupe à un autre, il circule. Vous le savez, il est chargé de cours à Montpellier, puis à Strasbourg. Puis Strasbourg est replié à Clermont-Ferrand. Et là, le 20 juin 40, devant des étudiants alsaciens qui sont repliés avec lui à Clermont-Ferrand, on lui pose des questions dans le hall de la fac. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut faire confiance au maréchal Pétain, etc. Et là, il répond, quand on l'interroge, il ne va pas par 36 chemins. 1. Vous allez être considérés comme des Allemands, donc fuyez, ne retournez surtout pas en Alsace, vous allez être enrôlés dans la Wehrmacht. Et 2. La question sur le maréchal Pétain, non, ce n'est pas la peine, ne lui faites aucune confiance. Il est dénoncé aussitôt, on est le 20 juin, 2 jours après, il est devant le commissaire de police, et là, en fonction de cette morale d'honneur que lui avait laissé son père, il persiste, il signe, et donc il est révoqué quelques jours plus tard. Le voilà révoqué, il habitait un petit une petite maison à 3 km de Clermont-Ferrand. Et là, il est obligé de partir, d'autant que le général Delattre réquisitionne, il proteste un peu, il demande à voir le général Delattre. Et il lui dit, enfin, ben, alors le général Delattre, alors il lui dit, bon, mais il faut que je parte à Bordeaux, de toute façon, j'ai perdu mon emploi. Alors le général Delattre lui donne une voiture, un chauffeur, un laissez-passer, de l'essence, et le voilà qui revient à Bordeaux. Alors là, il prévient son père, qui était d'origine maltaise, mais avec un passeport anglais, c'était compliqué. Il dit à son père qu'il faut qu'il disparaisse, qu'il se cache. Son père lui dit, mais non, j'ai fait du droit, je sais ce que c'est, ça risque rien. Et son père est évidemment arrêté, va passer 2 ans en forteresse à Besançon, dans des conditions épouvantables, avec des centaines d'Anglais. Et Jacques Ellul se replie à ce moment-là à la campagne, il n'a plus de travail, et il se replie avec femme et enfant, d'autant que son épouse, d'origine hollandaise, mais qui a un passeport britannique, est elle aussi menacée. Donc, il trouve, dans le petit village de Martre, canton de Targon, dans l'Entre-deux-Mers, il trouve une maison, il se réfugie, et là, comme il dit, je vais devenir paysan. Et ce qu'il racontait, ce qu'il m'a raconté, comme à beaucoup de ses étudiants, c'est qu'il a éprouvé un plaisir énorme, a récolté sa première tonne de patates. Il a été reçu à bras ouverts. Et j'ai revu encore des personnes de Martre qui m'ont dit « Mais aujourd'hui, ça serait plus possible. » Je ferme la parenthèse. Donc, il est vraiment reçu à bras ouverts. Il trouve là une société avec des liens interpersonnels, une espèce de communauté, comme il en rêvait dans le mouvement personnaliste. Et là, il sera très discret sur les faits de résistance. Il dira simplement « Oh, j'ai donné quelques coups de main, j'ai joué un rôle d'agent de liaison et puis de protection, je faisais passer les gens. » Alors, en réalité, il était à 10 km, il était en zone occupée, mais à 6 km de la ligne de démarcation, il a fait passer beaucoup de gens. Il a hébergé un couple de jeunes Alsaciens qui étaient menacés, les Wagner. Il a reçu Chouraki, qu'il connaissait depuis Clermont-Ferrand. Il a reçu des Russes, des gens de partout. La mémoire du village atteste qu'il y avait un poste émetteur qui était caché sous une grosse pierre près du ruisseau, que de temps en temps, il pouvait communiquer avec Londres, ou bien est-ce que c'était un simple poste récepteur ? Là, je ne peut pas savoir. Et il dit « Oh, j'étais en cheville avec un réseau ». Et c'est vrai que longtemps, on ne comprenait pas. Lorsque j'ai assisté à la remise de la médaille du Juste en mairie de Bordeaux il y a une dizaine d'années, je ne comprenais pas cette histoire de faux papiers, de 200 fausses cartes d'identité distribuées. Je ne comprenais pas. Il a fallu le livre de Jean Henrion, qui est cet homme, aujourd'hui 82 ans. Ici, il est peint par la mère de Jacques Ellul, qui était artiste peintre. Il est peint à l'âge de 8 ans, et ce bouquin vient de sortir cette semaine. Et Jean Henrion a pu m'expliquer ce qui s'était passé. Donc, Jean Henrion, en fait, Jean Hertz, avait connu cette famille, était repliée en Gironde, pas très loin, par hasard. Il s'était connu à Strasbourg, et Jacques Ellul a réussi à prévenir. Alors, le système, quel était-il ? Eh bien, à la préfecture, tout à côté, il y avait tout un réseau protestant qui s'était constitué parce que ce soit Jacques Ellul, Jean Bosque, Bichon et autres, ils avaient tous été en Allemagne nazie. Ils avaient vu. Hein, Jacques Ellul était allé à Munich, il avait vu ce qu'était l'Allemagne hitlérienne et toute la Fédé, tous ces mouvements étaient prêts. Ce qui fait qu'ils ont monté spontanément, sans être organisés, une sorte de réseau avec la personne décisive, c'était tout un réseau protestant, mais la personne décisive, c'était Madame Lavier, qui était secrétaire auprès des sinistres Poinceau, Papon et autres. Et chaque fois qu'il y avait des rafles qui se préparaient, Madame Lavier tapait un papier pelure de plus, et dans le tramway numéro 23, le soir, elle passait ce papier discrètement dans la cohue à Bernier, qui faisait partie là, de cette... Ça faisait une vingtaine de personnes, dont 5 ou 6 pasteurs. Et ainsi, les gens pouvaient être prévenus. Et Jean Hertz a pu être prévenu. Ellul lui-même, on a le récit... Le récit fait par Élu lui-même a essayé de prévenir l'ancien maire adjoint Ben Zakar, qui était professeur de droit. Il va le voir chez lui. Il a juste une heure avant le couvre-feu. Il lui amène les faux papiers. Il commence à installer les photos sur les faux papiers. Et puis, M. Ben Zakar ne comprend pas trop. Il est déjà âgé. Il dit non, je ne veux pas partir. Et Élu s'en va. Et M. Ben Zakar, deux heures plus tard, est évidemment pris et meurt à Auschwitz un mois plus tard. Donc, et on voit aussi dans les récits des archives du doyen du rabbin Cohen, Jacques Ellul, aller le voir rue Sainte-Catherine, prendre le risque et proposer des services, etc. Bon, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais je signale qu'effectivement, c'est une partie de la guerre, de l'histoire de Jacques Ellul, qui était resté jusque-là absolument, absolument inconnu. Alors, je dois dire encore que pour Ellul, s'est posé la question à un moment, s'armer ou ne pas s'armer. Et puis il dit, ben, on ne s'est pas armé, le réseau en question n'a pas fourni d'armes, et finalement c'était beaucoup mieux, j'ai gardé ma liberté, je n'étais pas sous l'emprise d'une logique de guerre, d'une logique qui m'aurait fait tomber sous ce qu'il appelle l'ordre de la nécessité, c'est-à-dire qu'après, on est dans une tout à fait autre logique qu'on ne maîtrise pas. Puis, il réussit à passer l'agrégation de droit romain en 43, malgré le texte, la mention de Laval, exemple type à ne laisser passer sous aucun prétexte à son endroit, dans la marge du dossier. Et puis, c'est la résistance, c'est la libération enfin, après des peurs, des frayeurs énormes. Il faut comprendre qu'il y a eu 300 fusillés en Gironde, il y a eu des milliers de personnes arrêtées, déportées, et ouf, c'est la libération. Et à ce moment-là, il est dans le mouvement de libération nationale, le MLN, avec Freinet et autres. Il a participé par des écrits autant qu'il a pu. Il se retrouve dans le comité départemental de libération, il fait partie des commissions d'épuration, et là, il va refuser une attitude dure, il va au contraire avoir une attitude de clémence à l'égard des collaborateurs, dont beaucoup avaient évidemment du sang et des choses à se reprocher très graves. Donc, il s'exprime. Expliquera dans Éthique de la liberté, il dira la morale des hommes n'est pas la morale de Dieu. Prenons l'exemple de Eichmann. Si on prend une morale et pour que la justice fonctionne, il faut qu'il y ait une sanction, et sinon la justice n'a aucune légitimité. Par contre, si on prend le commandement d'amour, si on prend les propos de Jésus, ça va être « va et ne pêche plus » et de passer l'éponge. Ce problème-là, qu'il traite de manière un peu théorique, il l'a vécu de près, évidemment. Alors, se pose à lui la question, l'espoir que la résistance va permettre d'aboutir à la révolution, à une révolution profonde, une révolution des personnes d'abord, avec une république décentralisée, fédérative, etc. Et Charbonneau lui écrit « Non, c'est pas possible, c'est faux, ça n'arrivera pas ». Donc, finalement, il va être très déçu. Il est maire adjoint de novembre 44 à avril 45. Il en part en disant que c'est impossible, qu'il y a trop de papiers à signer, que ce sont les techniciens qui font tout, que c'est de l'illusion politique. Il se présente quand même aux législatives, il est battu à plate couture, et il refuse à ce moment-là un poste de préfet du département du Nord. Et je pense que le bouquin de Charbonneau, L'État, dédié à celui qui n'a jamais voulu être préfet, c'est pas pour rien, voilà. Donc, les engagements, bien, il y a les engagements protestants dès la guerre, avec la création des associations familiales protestantes. Il y a, après la guerre, le poids de l'église confessante allemande, l'église barthienne, l'église qui s'est battue contre Hitler, qui représentait, on pense, à peu près un tiers des Allemands, et avec avec ces protestants allemands, suisses et hollandais, il met beaucoup d'espoir dans le Conseil œcuménique des Églises, qui se réunit pour la première fois en 1948, mais il participe à tous les travaux préparatoires. Donc, ça sera un très gros engagement. Puis ensuite, il va s'engager très profondément dans l'Église réformée, mais ça, c'est connu, membre du Synode national, membre du Conseil national. Il essaie d'impulser un mouvement, il essaie de faire voter, il fait voter quelque chose, disant que l'Église réformée est en mouvement pour des changements, etc. Il en sera déçu parce que le poids est quand même énorme. Il s'engage beaucoup dans sa paroisse de Pessac, comme il avait sorti des ronces un temple près de Martres dans l'entre-deux-mers pendant la guerre. Et puis après, il y a évidemment tous les engagements que l'on connaît qui vont être les engagements du côté de l'écologie, puisque dès les années 70, il dit bien qu'il n'y a pas de développement indéfini dans un monde qui est fini, c'est impossible. Je me souviens, il m'avait donné sa petite plaquette théorie jalon pour une théorie de l'environnement, lorsqu'il voyait qu'on s'engageait dans l'écologie, à la Cépanceau ou ailleurs, pour nous dire attention. Attention, du recul, il faut s'engager, mais du recul, c'était toujours dans cet esprit-là. Et les grands engagements, ça a été quoi ? Ça a été d'abord aussi le club de prévention de la délinquance dans les années 58, c'était les blousons noirs, c'était peut-être beaucoup moins dramatique qu'aujourd'hui. Il s'engage à fond, il s'engage aussi à fond contre le nucléaire. Là, il va voir Marcel Boiteux, protestant comme lui, qui a fait partie de ces réseaux, de ces groupes de réflexion à Bordeaux dans les années 30, qui est PDG de EDF. C'est l'échec total, c'est l'incompréhension, et Boiteux fera un article dérisoire dans Foi et Vie. Et il dit bien, le nucléaire, si je m'y oppose, c'est pas pour des raisons métaphysiques, vous avez ça dans l'éthique de la liberté, c'est parce qu'on va vers quelque chose de catastrophique, vers des pollutions à très long terme, catastrophiques de l'eau, de l'air, des ruisseaux, etc. Puis, c'est la mission interministérielle d'aménagement de la côte Aquitaine qui arrive en 1967, surtout avec la version Biasini, un administrateur colonial qui raconte qu'enfin, on va pouvoir offrir l'Aquitaine aux Japonais et aux Américains, que oui, on va pouvoir mettre 320 000 lits sur la côte Aquitaine. Et à ce moment-là, création du comité de défense avec des écologistes, des occitanistes, des PSU, un officier en retraite qui ne veut pas brader sa propriété. Donc ça fait une ambiance assez extraordinaire dans la salle à manger de Jacques Ellul. Et quand même, ça va réussir d'une part à durcir et à donner de bonnes directions au mouvement écolo et puis à bloquer quand même un certain nombre de projets avec un grand technocrate qui a toujours refusé de dialoguer avec Bernard Charbonneau ou Jacques Ellul. Je dirais qu'il y a d'autres engagements, il y a Eco-Ropa, dont il a été question, il y a les engagements contre le bétonnage dans les Pyrénées, il y a le soutien, je voudrais dire surtout le soutien aux plus faibles, avec les objecteurs de conscience anarchistes, avec les étudiants qu'il soutient, et non pas ceux qui ont déjà un doctorat, avec le juge Bidalou, avec les chargés de cours qui n'ont qu'un CDI et non pas un CDD, et qu'il faut titulariser. Et il va s'occuper toujours des plus faibles. Tout cela avec... il va infléchir tout cela avec une sorte d'ascèse, parce que c'est vrai que longtemps il ne va pas avoir de télévision, il va refuser toute vie mondaine pour pouvoir se consacrer à sa famille, à ses écrits, au prochain, recevant les gens, un temps assez court, mais recevant toujours, et toujours à l'écoute. Donc l'engagement, c'est d'abord pour lui, bon, mais il a écrit par ailleurs, c'est être vrai, c'est essayer d'être soi-même, c'est essayer de témoigner, et il a essayé de tout mener de front, et il ne dira jamais, évidemment, qu'il a mené le bon combat. Il ne dira jamais qu'il a réussi. Il aura tendance à dire qu'on est toujours menacé d'échec. Mais ce qui compte, c'est le sens, vous l'avez compris, que l'on donne aux choses, à ce que l'on veut mener, à la qualité de relation que l'on a avec ses interlocuteurs. Et la chose la plus importante, c'est évidemment le discernement, le témoignage, et témoigner que autre chose est possible, que toute autre chose est possible. Et c'est ça son itinéraire, je pense, avec évidemment peut-être l'amertume de ne pas avoir été connu il y a un moment suffisamment. Il n'a pas voulu aller à Paris, il n'a pas voulu faire carrière à Paris. Quand on reprend ses bouquins, on voit qu'il tape sur Sartre, sur Edgar Morin, sur Roland Barthes, sur tous les grands noms de cette époque, ce qui lui a coupé évidemment pas mal de pistes. Et l'engagement aussi se faisait avec de grandes difficultés. Il faut comprendre que sur l'aménagement de la côte aquitaine, je vais m'arrêter, mais sur l'engagement de la côte aquitaine, au début, ça part en fanfare. Sud-Ouest offre 2 pages non à la politique de Gribouille, et il y a les articles de Bernard Charbonneau, interviews et autres. Et puis très vite, mais il faut le savoir, très vite, des journalistes très connus qui étaient de ses anciens élèves, Jean-Claude Guillebeau, prix Albert Londres quand même, a été mis à pied par Sud-Ouest pendant un mois. Joël Aubert, qui sera quand même rédacteur en chef. Joël Aubert, même chose, mis à pied un mois. Quand on fait une réunion où il y a 1000 personnes à Mérignac avec Marty, le chanteur occitan, etc., on a eu droit pour annoncer qu'à 3 lignes, en 5e page de Sud-Ouest, 3 lignes tout à fait en bas. C'était ça aussi, hein, cette société cadenassée, parce qu'il y a un moment, des belles paroles, ça va, mais dès qu'on touche au concret, là, ça ne va plus. Et sur la côte aquitaine, ils disaient, moi, je suis content, parce que là, c'est clair, c'est net, c'est la technocratie, l'argent, l'État, je sais à qui je m'attaque. Voilà. Donc, voilà un petit peu, trop vite résumé, une vie très remplie, avec 58 livres, et puis il y en a encore 2 qui vont paraître, et donc ça fera 60, exactement comme Calvin. Voilà. Mais il n'a été calviniste que très peu, après il dira, c'est un fatras, je n'en veux pas. Voilà.
Merci beaucoup. On va devoir clôturer la conférence. Vous pourrez éventuellement vous rapprocher des auteurs pour discuter avec eux. Et merci encore, merci aux 3 intervenants.
Merci à vous.
Et merci à vous d'être venus ce soir. Merci.